Suite du chapitre 7. Il semblait ne pas comprendre. Alors, elle précisa. Elle se faisait maternelle. Elle lui donnait cette leçon, en camarade, par bonté de cœur. Depuis qu'elle le savait cocu, ce secret la gênait. Elle avait une envie folle de causer de ça avec lui. « Mon Dieu, je parle de choses qui ne me regardent pas. Ce que j'en dis, c'est parce que tout le monde devrait être heureux. Nous causons, n'est-ce pas ? Voyons, tu vas répondre bien franchement. » Mais elle s'interrompit pour changer de position. Elle se brûlait. « Hein, il fait joliment chaud, j'ai le dos cuit. Attends, je vais me cuire un peu le ventre. C'est ça qui est bon pour les douleurs. » Et quand elle se fut tournée, la gorge au feu, les pieds repliés sous les cuisses, « Voyons, tu ne couches plus avec ta femme ?»« Non, je te le jure, » dit Muffa, craignant une scène. « Et tu crois que c'est un vrai morceau de bois ?» Il répondit affirmativement en baissant le menton. « Et c'est pour ça que tu m'aimes ? Réponds donc, que je ne me fâcherai pas. » Il répéta le même signe. « Très bien, » conclut-elle. « Je m'en doutais. Ah, ce pauvre chien. Tu connais ma tante le rat. Quand elle viendra, fais-toi conter l'histoire du fruitier qui est en face de chez elle. Imagine-toi que ce fruitier... Crénom, que ce feu est chaud. Il faut que je me tourne. Je vais me cuire le côté gauche maintenant. » En présentant la hanche à la flamme, une drôlerie lui vint, et elle se blagua elle-même, en bonne bête, heureuse de se voir si grasse et si rose dans le reflet du brasier. « J'ai l'air d'une noix. Oh, c'est ça, une noix à la broche. Je tourne, je tourne. Vrai, je cuis dans mon jus. » Elle était reprise d'un beau rire. Lorsqu'il y eut un bruit de voix et de portes battantes, Muffa, étonnée, l'interrogea du regard. Elle redevint sérieuse, l'air inquiet. C'était pour sûr le chat de Zoé, un sacré animal qui cassait tout. Minuit et demi. Où avait-elle l'idée de travailler au bonheur de son cocu ? À présent que l'autre était là, il fallait l'expédier, et vite. « Que disais-tu ? Demanda le comte avec complaisance, ravi de la voir si gentille. Mais, dans son désir de le renvoyer, sautant à une autre humeur, elle fut brutale, ne ménageant plus les mots. « Ah oui, le fruitier et sa femme. Eh bien, mon cher, ils ne se sont jamais touchés, pas ça. Elle était très portée là-dessus, tu comprends ? Lui, Godiche, n'a pas su. Si bien que, la croyant en bois, il est allé ailleurs avec des roulures qui l'ont régalé de toutes sortes d'horreurs, tandis qu'elle, de son côté, s'en payait d'aussi raide avec des garçons plus malins que son cornichon de mari. Et ça tourne toujours comme ça, faute de s'entendre. Je le sais bien, moi. » Muffa, pâlissant, comprenant enfin les allusions, voulut la faire taire. Mais elle était lancée. « Non, fiche-moi la paix. Si vous n'étiez pas des muffes, vous seriez aussi gentils chez vos femmes que chez nous. Et si vos femmes n'étaient pas des dindes, elles se donneraient pour vous garder la peine que nous prenons pour vous avoir. Tout ça, c'est des manières. Voilà, mon petit, mets ça dans ta poche. » « Ne parlez donc pas des honnêtes femmes, » dit-il durement. « Vous ne les connaissez pas. » Du coup, Nana se releva sur les genoux. « Je ne les connais pas. Mais elles ne sont seulement pas propres, tes honnêtes femmes. Non, elles ne sont pas propres. Je te défie d'en trouver une qui ose se montrer comme je suis là. Vrai, tu me fais rire avec tes femmes honnêtes. Ne me pousse pas à bout. Ne me force pas à te dire des choses que je regretterai ensuite. » Le comte, pour toute réponse, mâcha sourdement une injure. À son tour, Nana devint blanche. Elle le regarda quelques secondes sans parler. Puis, de sa voix nette, « Que ferais-tu si ta femme te trompait ?» Il eut un geste menaçant. « Eh bien, et moi, si je te trompais ?»« Oh, toi !» murmura-t-il avec un haussement d'épaule. Certes, Nana n'était pas méchante. Depuis les premiers mots, elle résistait à l'envie de lui envoyer son coquillage par la figure. Elle aurait aimé le confesser là-dessus, tranquillement. Mais à la fin, il l'exaspérait. Ça devait finir. « Alors, mon petit, reprit-elle, je ne sais pas ce que tu fiches chez moi. Tu m'assommes depuis 2 heures. Va donc retrouver ta femme qui fait ça avec faucherie. Oui, tout juste, rue Thébou, au coin de la rue de Provence. Je te donne l'adresse, tu vois ?» Puis, triomphante, voyant Muffat se mettre debout avec le vacillement d'un bœuf assommé, « Et si les femmes honnêtes s'en mêlent et nous prennent nos amants, ouais, elles sont bien, les femmes honnêtes. » Mais elle ne put continuer. D'un mouvement terrible, il l'avait jetée par terre, de toute sa longueur. Et, levant le talon, il voulait lui écraser la tête pour la faire taire. Un instant, elle eut une peur affreuse. Aveuglé, comme fou, il s'était mis à battre la chambre. Alors, le silence étranglé qu'il gardait, la lutte dont il était secoué, la touchèrent jusqu'aux larmes. Elle éprouvait un regret mortel. Et, se pelotonnant devant le feu pour se cuire le côté droit, elle entreprit de le consoler. « Je te jure, chérie, je croyais que tu le savais. Sans cela, je n'aurais pas parlé, bien sûr. Puis, ce n'est pas vrai, peut-être. Moi, je n'affirme rien. On m'a dit ça, le monde en cause. Mais qu'est-ce que ça prouve ?» « Ah, va, tu as bien tort de te faire de la bile. Si j'étais homme, c'est moi qui me ficherais des femmes. Les femmes, vois-tu, en haut comme en bas, ça se vaut, toutes noceuses et compagnie. » Elle tapait sur les femmes, par abnégation, voulant lui rendre le coup moins cruel. Mais il ne l'écoutait pas, ne l'entendait pas. Tout en piétinant, il avait remis ses bottines et sa redingote. Un moment encore, il battit la pièce. Puis, dans un dernier élan, comme s'il trouvait enfin la porte, il se sauva. Nana fut très vexée. « Eh bien, bon voyage » continua-t-elle tout haut, quoique seule. « Il est encore poli, celui-là, quand on lui parle. Et moi qui m'escrimais, je suis revenue la première. J'ai assez fait d'excuses, je crois. Aussi, il était là, à m'agacer. » Pourtant, elle restait mécontente, se grattant les jambes à deux mains. Mais elle en prit son parti. « Ah, zut, ce n'est pas ma faute s'il est cocu !» Et, cuite de tous les côtés, chaude comme une caille, elle alla se fourrer dans son lit en sonnant Zoé pour qu'elle fît entrer l'autre qui attendait à la cuisine. Dehors, Muffat marcha violemment. Une nouvelle averse venait de tomber. Il glissait sur le pavé gras. Comme il regardait en l'air d'un mouvement machinal, il vit des haillons de nuages, couleur de suie, qui couraient devant la lune. À 7 heures, sur le boulevard Haussmann, les passants se faisaient rares. Il longea les chantiers de l'opéra, cherchant le noir, bégayant des mots sans suite. Cette fille mentait. Elle avait inventé ça par bêtise et cruauté. Il aurait dû lui écraser la tête lorsqu'il la tenait sous son talon. À la fin, c'était trop de honte. Jamais il ne la reverrait, jamais il ne la toucherait. Ou il faudrait qu'il fût bien lâche. Et il respirait fortement d'un air de délivrance. Ah, ce monstre nu, stupide, cuisant comme une oie, bavant sur tout ce qu'il respectait depuis 40 années. La lune s'était découverte, une nappe blanche baigna la rue déserte. Il eut peur et il éclata en sanglots, tout d'un coup désespéré, affolé, comme tombé dans un vide immense. « Mon Dieu » balbutia-t-il, « c'est fini, il n'y a plus rien !» Le long des boulevards, des gens attardés hâtaient le pas. Il tâcha de se calmer. L'histoire de cette fille recommençait toujours dans sa tête en feu. Il aurait voulu raisonner les faits. C'était le matin que la comtesse devait revenir du château de Madame de chez elle. Rien, en effet, ne l'aurait empêché de rentrer à Paris la veille au soir et de passer la nuit chez cet homme. Il se rappelait maintenant certains détails de leur séjour aux fondettes. Un soir, il avait surpris Sabine sous les arbres, si émue qu'elle ne pouvait répondre. L'homme était là. Pourquoi ne serait-elle pas chez lui maintenant? À mesure qu'il y pensait, l'histoire devenait possible. Il finit par la trouver naturelle et nécessaire. Tandis qu'il se mettait en manche de chemise chez une catin, sa femme se déshabillait dans la chambre d'un amant. Rien de plus simple, ni de plus logique. Et en raisonnant ainsi, il s'efforçait de rester froid. C'était une sensation de chute dans la folie de la chair, s'élargissant, gagnant et emportant le monde autour de lui. Des images chaudes le poursuivaient. Nana, nue, brusquement, évoqua Sabine nue. À cette vision qui les rapprochait dans une parenté d'impudeur, sous un même souffle de désir, il trébucha. Sur la chaussée, un fiacre avait failli l'écraser. Des femmes, sorties d'un café, le coudoyaient avec des rires. Alors, gagné de nouveau par les larmes, malgré son effort, ne voulant pas sangloter devant les gens, il se jeta dans une rue noire et vide, la rue Rossini, où, le long des maisons silencieuses, il pleura comme un enfant. « C'est fini !» disait-il d'une voix sourde. « Il n'y a plus rien ! Il n'y a plus rien !» Il pleurait si violemment qu'il s'adossa contre une porte, le visage dans ses mains mouillées. Un bruit de pas le chassa. Il éprouvait une honte, une peur, qui le faisait fuir devant le monde, avec la marche inquiète d'un rôdeur de nuit. Quand des passants le croisaient sur le trottoir, il tâchait de prendre une allure dégagée en s'imaginant qu'on lisait son histoire dans le balancement de ses épaules. Il avait suivi la rue de la Grange-Batelière jusqu'à la rue du Faubourg Montmartre. L'éclat des lumières le surprit. Il revint sur ses pas. Pendant près d'une heure, il courut ainsi le quartier, choisissant les trous les plus sombres. Il avait sans doute un but où ses pieds allaient d'eux-mêmes, patiemment, par un chemin sans cesse compliqué de détours. Enfin, au coude d'une rue, il leva les yeux. Il était arrivé. C'était le coin de la rue Taitbout et de la rue de Provence. Il avait mis une heure pour venir là, dans le grondement douloureux de son cerveau, lorsqu'en 5 minutes il aurait pu s'y rendre. Un matin, le mois dernier, il se souvenait d'être monté chez Fauchery, le remercier d'une chronique sur un bal des Tuileries, où le journaliste l'avait nommé. L'appartement se trouvait à l'entresol, de petites fenêtres carrées, à demi cachées, derrière l'enseigne colossale d'une boutique. Vers la gauche, la dernière fenêtre était coupée par une bande de vive clarté, un rayon de lampe qui passait entre les rideaux entr'ouverts. Et il resta, les yeux fixés sur cette raie lumineuse, absorbé, attendant quelque chose. La lune avait disparu dans un ciel d'encre, d'où tombait une bruine glacée. 2 heures sonnèrent à la Trinité. La rue de Provence et la rue Taitbout s'enfonçaient avec les taches vives des becs de gaz qui se noyaient au loin dans une vapeur jaune. Muffat ne bougeait pas. C'était la chambre. Il se la rappelait, tendue d'andrinople rouge avec un lit Louis XIII au fond. La lampe devait être à droite sur la cheminée. Sans doute, ils étaient couchés, car pas une ombre ne passait. La raie de clarté luisait, immobile, comme un reflet de veilleuse. Et lui, les yeux toujours levés, faisait un plan. Il sonnait, il montait malgré les appels du concierge, enfonçait les portes à coups d'épaule, tombait sur eux, dans le lit, sans leur donner le temps de dénouer leurs bras. Un instant, l'idée qu'il n'avait pas d'armes l'arrêta. Puis, il décida qu'il les étranglerait. Il reprenait son plan. Il le perfectionnait, attendant toujours quelque chose, un indice pour être certain. Si une ombre de femme s'était montrée à ce moment, il aurait sonné. Mais la pensée qu'il se trompait peut-être le glaçait. Que dirait-il? Des doutes lui revenaient. Sa femme ne pouvait être chez cet homme. C'était monstrueux et impossible. Cependant, il demeurait envahi peu à peu par un engourdissement glissant à une mollesse dans cette longue attente que la fixité de son regard hallucinait. Une averse tomba, deux sergents de ville approchaient, et il dut quitter le coin de porte où il s'était réfugié. Lorsqu'ils se furent perdus dans la rue de Provence, il revint, mouillé, frissonnant. La raie lumineuse barrait toujours la fenêtre. Cette fois, il allait partir, quand une ombre passa. Ce fut si rapide qu'il crut s'être trompé. Mais tout à coup, d'autres taches coururent. Toute une agitation eut lieu dans la chambre. Lui, cloué de nouveau sur le trottoir, éprouvait une sensation intolérable de brûlure à l'estomac, attendant pour comprendre maintenant. Des profils de bras et de jambes fuyaient. Une main énorme voyageait avec une silhouette de peau à eau. Il ne distinguait rien nettement. Pourtant, il lui semblait reconnaître un chignon de femme. Et il discuta. On aurait dit la coiffure de Sabine. Seulement, la nuque paraissait trop forte. À cette heure, il ne savait plus. Il ne pouvait plus. Son estomac le faisait tellement souffrir, dans une angoisse d'incertitude affreuse, qu'il se serrait contre la porte pour se calmer avec le grelottement d'un pauvre. Puis, comme malgré tout il ne détournait pas les yeux de cette fenêtre, sa colère se fondit dans une imagination de moraliste. Il se voyait député, il parlait à une assemblée, tonnait contre la débauche, annonçait des catastrophes. Et il refaisait l'article de faucherie sur la mouche empoisonnée. Et il se mettait en scène, en déclarant qu'il n'y avait plus de société possible avec ses mœurs de bas empire. Cela lui fit du bien. Mais les ombres avaient disparu. Sans doute, il s'était recouché. Lui regardait toujours, attendait encore. 3 heures sonnèrent, puis 4 heures, et il ne pouvait partir. Quand des averses tombaient, il s'enfonçait dans le coin de la porte, les jambes éclaboussées. Personne ne passait plus. Par moments, ses yeux se fermaient, comme brûlés par la raie de lumière, sur laquelle il s'entêtait, fixement, avec une obstination imbécile. À 2 nouvelles reprises, les ombres coururent, répétant les mêmes gestes, promenant le même profil d'un pot à eau gigantesque. Et 2 fois, le calme se rétablit. La lampe jeta sa lueur discrète de veilleuse. Ces ombres augmentaient sans doute. D'ailleurs, une idée soudaine venait de l'apaiser en reculant l'heure d'agir. Il n'avait qu'à attendre la femme à sa sortie. Il reconnaîtrait bien Sabine. Rien de plus simple, pas de scandale et une certitude. Il suffisait de rester là. De tous les sentiments confus qu'il avait agités, il ne ressentait maintenant qu'un sourd besoin de savoir. Mais l'ennui l'endormait sous cette porte. Pour se distraire, il tâcha de calculer le temps qu'il lui faudrait attendre. Sabine devait se trouver à la gare vers 9 heures. Cela lui donnait près de 4 heures et demie. Il était plein de patience. Il n'aurait plus remué, trouvant un charme à rêver que son attente dans la nuit serait éternelle. Tout d'un coup, l'arrêt de lumière s'effaça. Ce fait très simple fut pour lui une catastrophe inattendue, quelque chose de désagréable et de troublant. Évidemment, ils venaient d'éteindre la lampe, ils allaient dormir. À 7 heures, c'était raisonnable. Mais il s'en irrita, parce que cette fenêtre noire, à présent, ne l'intéressait plus. Il la regarda 1 quart d'heure encore, puis elle le fatigua. Il quitta la porte et fit quelques pas sur le trottoir. Jusqu'à 5 heures, il se promena, allant et venant, levant les yeux de temps à autre. La fenêtre restait morte. Par moments, il se demandait s'il n'avait pas rêvé que des ombres dansaient là, sur ses vitres. Une fatigue immense l'accablait, une hébétude dans laquelle il oubliait ce qu'il attendait à ce coin de rue, butant contre les pavés, se réveillant en sursaut, avec le frisson glacé d'un homme qui ne sait plus où il est. Rien ne valait la peine qu'on se donnât du souci, puisque ces gens dormaient. Il fallait les laisser dormir. À quoi bon se mêler de leurs affaires? Il faisait très noir. Personne ne saurait jamais ces choses. Et alors, tout en lui, jusqu'à sa curiosité, s'en alla, emporté dans une envie d'en finir, de chercher quelque part un soulagement. Le froid augmentait. La rue lui devenait insupportable. Deux fois, il s'éloigna, se rapprocha en traînant les pieds pour s'éloigner davantage. C'était fini. Il n'y avait plus rien. Il descendit jusqu'au boulevard et ne revint pas. Ce fut une course morne dans les rues. Il marchait lentement, toujours du même pas, suivant les murs. Ses talons sonnaient, il ne voyait que son ombre tourner, en grandissant et en rapetissant à chaque bec de gaz. Cela le berçait, l'occupait mécaniquement. Plus tard, jamais il ne sut où il avait passé. Il lui semblait s'être traîné pendant des heures en rond dans un cirque. Un souvenir unique lui resta, très net. Sans pouvoir expliquer comment, il se trouvait le visage collé à la grille du passage des panoramas, tenant les barreaux des deux mains. Il ne les secouait pas, il tâchait simplement de voir dans le passage, pris d'une émotion dont tout son cœur était gonflé. Mais il ne distinguait rien. Un flot de ténèbres coulait le long de la galerie déserte. Le vent qui s'engouffrait par la rue Saint-Marc lui soufflait au visage une humidité de cave. Et il s'entêtait. Puis, sortant d'un rêve, il demeura étonné. Il se demanda ce qu'il cherchait à cette heure, serré contre cette grille, avec une telle passion que les barreaux lui étaient entrés dans la figure. Alors il avait repris sa marche, désespéré, le cœur empli d'une dernière tristesse, comme trahi et seul désormais dans toute cette ombre. Le jour enfin se leva, ce petit jour sale des nuits d'hiver, si mélancolique sur le pavé boueux de Paris. Muffat était revenu dans les larges rues en construction qui longeaient les chantiers du nouvel opéra. Trempé par les averses, défoncé par les chariots, le sol plâtreux était changé en un lac de fange. Et, sans regarder où il posait les pieds, il marchait toujours, glissant, se rattrapant. Le réveil de Paris, les équipes de balayeurs et les premières bandes d'ouvriers lui apportaient un nouveau trouble à mesure que le jour grandissait. On le regardait avec surprise, le chapeau noyé d'eau, crotté, effaré. Longtemps, il se réfugia contre les palissades, parmi les échafaudages. Dans son être vide, une seule idée restait, celle qu'il était bien misérable. Alors il pensa à Dieu. Cette idée brusque d'un secours divin, d'une consolation surhumaine, le surprit comme une chose inattendue et singulière. Elle éveillait en lui l'image de Monsieur Venot. Il voyait sa petite figure grasse, ses dents gâtées. Certainement, Monsieur Venot, qu'il désolait depuis des mois en évitant de le voir, serait bien heureux s'il allait frapper à sa porte pour pleurer entre ses bras. Autrefois, Dieu lui gardait toutes ses miséricordes. Au moindre chagrin, au moindre obstacle barrant sa vie, il entrait dans une église, s'agenouillait, humiliait son néant devant la souveraine puissance. Et il en sortait fortifié par la prière, prêt aux abandons des biens de ce monde, avec l'unique désir de l'éternité de son salut. Mais aujourd'hui, il ne pratiquait plus que par secousses, aux heures où la terreur de l'enfer le reprenait. Toutes sortes de mollesses l'avaient envahi. Nana troublait ses devoirs, et l'idée de Dieu l'étonnait. Pourquoi n'avait-il pas songé à Dieu tout de suite dans cette effroyable crise où craquait et s'effondrait sa faible humanité? Cependant, de sa marche pénible, il chercha une église. Il ne se souvenait plus, l'heure matinale lui changeait les rues. Puis, comme il tournait un coin de la rue de la Chaussée-d'Antin, il aperçut au bout la Trinité, une tour vague fondue dans le brouillard. Les statues blanches, dominant le jardin dépouillé, semblaient mettre des Vénus frileuses parmi les feuilles jaunies d'un parc. Sous le porche, il souffla un instant, fatigué par la montée du large perron. Puis, il entra. L'église était très froide, avec son calorifère éteint de la veille, ses hautes voûtes emplies d'une buée fine qui a fait filtrer par les vitraux. Une ombre noyait les bas-côtés. Pas une âme n'était là. On entendait seulement, au fond de cette nuit louche, un bruit de savates, quelques bedeaux traînant les pieds dans la maussaderie du réveil. Lui, pourtant, après s'être cogné à une débandade de chaises, perdu, le cœur gros de larmes, était tombé à genoux contre la grille d'une petite chapelle, près d'un bénitier. Il avait joint les mains, il cherchait des prières, tout son être aspirait à se donner dans un élan. Mais ses lèvres seules bégayaient des paroles. Toujours son esprit fuyait, retournait dehors, se remettait en marche le long des rues, sans repos, comme sous le fouet d'une nécessité implacable. Et il répétait « Oh mon Dieu, venez à mon secours! Oh mon Dieu, n'abandonnez pas votre créature qui s'abandonne à votre justice! Oh mon Dieu, je vous adore! Me laisserez-vous périr sous les coups de vos ennemis ?» Rien ne répondait. L'ombre et le froid lui tombaient sur les épaules. Le bruit des savates, au loin, continuait et l'empêchait de prier. Il n'entendait toujours que ce bruit irritant dans l'église déserte, où le coup de balai du matin n'était pas même donné, avant le petit échauffement des premières messes. Alors, cédant d'une chaise, il se releva avec un craquement de genoux. Dieu n'y était pas encore. Pourquoi aurait-il pleuré entre les bras de M. Venot? Cet homme ne pouvait rien. Et, machinalement, il retourna chez Nana. Dehors, ayant glissé, il sentit des larmes lui venir aux yeux, sans colère contre le sort, simplement faible et malade. À la fin, il était trop las, il avait reçu trop de pluie, il souffrait trop du froid. L'idée de rentrer dans son hôtel sombre de la rue Miroménil le glaçait. Chez Nana, la porte n'était pas ouverte. Il dut attendre que le concierge parût. En montant, il souriait, pénétré déjà par la chaleur molle de cette niche où il allait pouvoir s'étirer et dormir. Lorsque Zoé lui ouvrit, elle eut un geste de stupéfaction et d'inquiétude. Madame, prise d'une abominable migraine, n'avait pas fermé l'œil. Enfin, elle pouvait toujours voir si madame ne s'était pas endormie. Et elle se glissa dans la chambre pendant qu'il tombait sur un fauteuil du salon. Mais, presque aussitôt, Nana parut. Elle sautait du lit, elle avait à peine eu le temps de passer un jupon, pieds nus, les cheveux épars, la chemise fripée et déchirée dans le désordre d'une nuit d'amour. « Comment, c'est encore toi ? » cria-t-elle, toute rouge. Elle accourait, sous le fouet de la colère, pour le flanquer elle-même à la porte. Mais en le voyant si minable, si fini, elle éprouva un dernier apitoiement. « Eh bien, tu es propre, mon pauvre chien !» reprit-elle avec plus de douceur. « Qu'y a-t-il donc ? Hein ? Tu les as guettés ? Tu t'es fait de la bile ?» Il ne répondit pas. Il avait l'air d'une bête abattue. Cependant, elle comprit qu'il manquait toujours de preuves, et pour le remettre, « Tu vois, je me trompais. Ta femme est honnête, parole d'honneur. Maintenant, mon petit, il faut rentrer chez toi et te coucher. Tu en as besoin. » Il ne bougea pas. « Allons, va-t'en, je ne peux te garder ici. Tu n'as peut-être pas la prétention de rester à cette heure. » « Si, couchons-nous » balbutia-t-il. Elle réprima un geste de violence. La patience lui échappait. Est-ce qu'il devenait idiot ?« Voyons, va-t'en » dit-elle une seconde fois. « Non. » Alors elle éclata, exaspérée, révoltée. « Mais c'est dégoûtant! Comprends donc, j'ai de toi plein le dos! Va retrouver ta femme qui te fait cocu! Oui, elle te fait cocu, c'est moi qui te le dis maintenant! Là, as-tu ton paquet? Finiras-tu par me lâcher ?» Les yeux de Muffa s'emplirent de larmes. Il joignit les mains. « Couchons-nous !» Du coup, Nana perdit la tête, étranglée elle-même par des sanglots nerveux. « On abusait d'elle à la fin! Est-ce que ces histoires la regardaient ?» Certes, elle avait mis tous les ménagements possibles pour l'instruire, par gentillesse, et l'on voulait lui faire payer les pots cassés. Non, par exemple. Elle avait bon cœur, mais pas tant que ça. « Sacré non, j'en ai assez » jurait-elle en tapant du poing sur les meubles. « Ah, bien, moi qui me tenais à quatre, moi qui voulais être fidèle, mais, mon cher, demain, je serais riche si je disais un mot. » Il leva la tête, surpris. Jamais il n'avait songé à cette question d'argent. Et si elle témoignait un désir, tout de suite il le réaliserait. Sa fortune entière était à elle. « Non, c'est trop tard, » répliqua-t-elle rageusement. « J'aime les hommes qui donnent sans qu'on demande. Non, vois-tu, 1 million pour une seule fois, je refuserai. C'est fini, j'ai autre chose là. Va-t'en, ou je ne réponds plus de rien. Je ferai un malheur. » Elle s'avançait vers lui, menaçante. Et, dans cette exaspération d'une bonne fille poussée à bout, convaincue de son droit et de sa supériorité sur les honnêtes gens qui l'assommaient, brusquement la porte s'ouvrit et Stenner se présenta. Ce fut le comble. Elle eut une exclamation terrible. « Allons, voilà l'autre !» Stenner, ahuri par l'éclat de sa voix, s'était arrêté. La présence imprévue de Muffa le contrariait, car il avait peur d'une explication devant laquelle il reculait depuis 3 mois. Les yeux clignotants, il se dandinait d'un air gêné en évitant de regarder le comte. Et il soufflait avec la face rouge et décomposée d'un homme qui a couru Paris pour apporter une bonne nouvelle et qui se sent tombé dans une catastrophe. « Que veux-tu, toi ?» demanda rudement Nana, le tutoyant, se moquant du comte. « Moi, bégaya-t-il, j'ai à vous remettre ce que vous savez. Quoi ? » Il hésitait. L'avant-veille, elle avait signé que s'il ne lui trouvait pas 1000 francs pour payer un billet, elle ne le recevrait plus. Depuis 2 jours, il battait le pavé. Enfin, il venait de compléter la somme le matin même. « Les 1000 francs !» finit-il par dire en tirant de sa poche une enveloppe. Nana avait oublié. « Les 1000 francs !» cria-t-elle. « Est-ce que je demande l'aumône ? Tiens, voilà le cas que j'en fais de tes 1000 francs !» Et, prenant l'enveloppe, elle la lui jeta par la figure. En juif prudent, il la ramassa, péniblement. Il regardait la jeune femme, hébétée. Muffa échangea avec lui un regard de désespoir pendant qu'elle se mettait les poings sur les hanches pour crier plus fort. « Ah, ça ! Avez-vous bientôt fini de m'insulter ? Toi, mon cher, je suis contente que tu sois venu aussi, parce que vois-tu, le balayage va être complet. Allons, oup, dehors !» Puis, comme il ne se pressait guère, paralysé, « Hein ? Vous dites que je fais une sottise ? Possible, mais vous m'avez trop embêté. Et zut, j'en ai assez d'être chic. Si j'en crève, c'est mon plaisir. » Ils voulurent la calmer, ils la suppliaient. « 1, 2, vous refusez de partir ? Eh bien, voyez ça, j'ai du monde !» D'un geste brusque, elle ouvrit toute grande la porte de sa chambre. Alors, les deux hommes, au milieu du lit défait, aperçurent Fontan. Il ne s'attendait pas à être montré ainsi, et il avait les jambes en l'air, la chemise volante, vautrée comme un bouc au milieu des dentelles fripées, avec sa peau noire. D'ailleurs, il ne se troubla pas, habitué aux surprises des planches. Après la première secousse de saisissement, il trouva un jeu de physionomie pour se tirer à son honneur. Il fit le lapin, comme il disait, avançant la bouche, frisant le nez, dans un remuement du museau entier. Sa tête de faune canaille suait le vice. C'était Fontan que, depuis 8 jours, Nana allait chercher aux variétés, prise de la toquade enragée des filles pour la laideur grimacière des comiques. « Voilà !» dit-elle en le montrant, avec un geste de tragédienne. Muffa, qui avait tout accepté, se révolta sous cet affront. « Putain !» bégaya-t-il. Mais Nana, déjà dans la chambre, revint, pour avoir le dernier mot. « De quoi, putain ? Et ta femme ?» Et, s'en allant, refermant la porte à toute volée, elle poussa bruyamment le verrou. Les deux hommes, restés seuls, se regardèrent en silence. Zoé venait d'entrer, mais elle ne les bouscula pas. Elle leur causa très raisonnablement. En personne sage, elle trouvait la bêtise de madame un peu forte. Pourtant, elle la défendait. Ça ne tiendrait pas avec ce cabotin. Il fallait laisser passer cette rage-là. Les deux hommes se retirèrent. Ils n'avaient pas dit une parole. Sur le trottoir, émus par une fraternité, ils se donnèrent une poignée de main silencieuse. Et, se tournant le dos, ils s'éloignèrent, traînant la jambe, chacun de son côté. Lorsque Muffa rentra enfin à son hôtel de la rue Miroménil, sa femme justement arrivait. Tous deux se rencontrèrent dans le vaste escalier, dont les murs sombres laissaient tomber un frisson glacé. Ils levèrent les yeux et se virent. Le comte avait encore ses vêtements boueux, sa pâleur effarée d'homme qui revient du vice. La comtesse, comme brisée par une nuit de chemin de fer, dormait debout, mal repeignée et les paupières meurtries.